Vous écoutez RMC.
Une très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À qui la faute encore ce matin? Un nouveau rebondissement dans le scandale du périscolaire à Paris. Un animateur récemment mis en examen pour agression sexuelle avait déjà été mis en cause il y a seulement 2 ans. Vous allez voir dans ce journal qu'il n'y a jamais eu autant de fuites de données personnelles en France avec toutes les cyberattaques. Les chiffres sont en hausse de 10% sur un an. Et vous verrez aussi que Victor Wembanyama a encore marché sur l'eau cette nuit aux États-Unis en NBA en étant époustouflant pour le premier match de la finale de Conférence Ouest.
C'est un énième rebondissement dans le scandale du périscolaire à Paris.
Oui, c'est un scandale de grande ampleur qui n'en finit plus d'éclater puisque des enquêtes pour de possibles violences sur les enfants sont ouvertes dans une centaine d'écoles de la capitale, dans une maternelle sur 3. Ça vous donne une idée de l'ampleur. 78 agents ont été suspendus depuis le début de l'année et le nouveau rebondissement concerne un animateur récemment mis en examen pour agression sexuelle dans une école du 11e arrondissement. Pierre Bazin, au service police-justice, RMC. Il avait déjà été mis en cause il y a 2 ans.
Oui, ce sont les agents en charge de l'enquête administrative qui ont révélé aux parents que cet animateur avait déjà été visé par une plainte en 2024 pour des faits d'agression sexuelle sur une fillette. C'est ce que nous rapporte cette parent d'élève qui a assisté à la réunion.
Le temps de l'enquête, il a arrêté de travailler. Ça a duré 6 mois. La brigade des mineurs a conclu à une affaire sans suite. Il a alors décidé de repostuler dans la direction du périscolaire du 11e et du 12e arrondissement.
Les plaintes se sont ensuite multipliées dans les écoles où il a exercé après 2024. Les parents d'élèves sont consternés. C'est le cas notamment d'Éric. Le père de famille a lui-même porté plainte. Sa petite fille était au contact de cet animateur.
Je suis très énervé. Il y a un principe de précaution. Et au nom de ce principe de précaution, cet éducateur n'aurait pas dû être là. On n'a pas fait en sorte qu'il ne récidive pas. Et en cela, il y a un comportement fautif de la mairie de Paris et d'une de ses administrations, celle qui est en charge du périscolaire. Il faut imaginer, nous le soir, on voit nos enfants avoir peur.
Ce soir, c'est à l'ensemble des parents des écoles concernées que les conclusions de cette enquête administrative seront présentées.
10 plaintes étudiées par la justice à Nanterre, une à Saint-Malo, une autre à Paris. Voilà le détail de l'affaire Patrick Bruel qui est accusé de violence sexuelle par une trentaine de femmes. Alors lui, il conteste, mais l'animatrice Flavie Flamand qui a porté plainte contre lui la semaine dernière dit, et je la cite, qu'elle est sidérée par la défense des avocats du chanteur.
Et puis on a la preuve par les chiffres ce matin qu'il n'y a jamais eu autant de fuites de données personnelles en France.
On en parle quasiment tous les jours, hein, des cyberattaques, des piratages de grande ampleur. Et bien plus de 6000 notifications ont été recensées en 2025 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que vous connaissez certainement sous le nom de la CNIL, chiffre en hausse de 10% sur un an. Dans la moitié des cas, c'est lié à des piratages, Amélie Courtet.
Oui, personne n'est épargné, souligne la CNIL, des fédérations sportives en passant par Free jusqu'au ministère de l'économie. Des fuites de données personnelles de plus en plus massives, note le rapport. Bien souvent, la faille est à trouver chez les prestataires avec des systèmes de sécurité plus vulnérables. Si les attaques se multiplient, analyse la CNIL, c'est d'abord parce que le vol de ces données est rentable, mais aussi parce que ces attaques sont de plus en plus faciles à mener grâce au développement de l'intelligence artificielle. Alors, face à la hausse des cyberattaques, la CNIL promet de renforcer ses contrôles et ses sanctions, mais elle invite également les utilisateurs à adopter une bonne hygiène numérique, ne pas cliquer sur les liens douteux, avoir des mots de passe robustes, une vigilance qui doit être permanente car les tentatives d'escroquerie interviennent souvent plusieurs semaines après le vol de données.
On reparle de la Chine ce matin. Les sommets s'enchaînent. Vladimir Poutine est attendu à Pékin aujourd'hui et demain pour célébrer l'amitié officiellement entre les deux pays. Une semaine après, souvenez-vous, la visite en Chine de Donald Trump qui fait une nouvelle sortie sur le conflit au Moyen-Orient ce matin en évoquant de bonnes chances, voilà ce qu'il dit, de parvenir à un accord avec l'Iran et en disant aussi qu'il avait renoncé à la dernière minute à des frappes visant l'Iran qui étaient normalement, selon lui, prévues ce mardi. Alors dans ce contexte de conflit au Moyen-Orient, les TPE et les PME résiste finalement à la crise mieux que prévu, qui n'entraîne pas de dégradation majeure, avec même des intentions d'investissement en légère hausse. Tout ça, c'est ce que nous dit le dernier baromètre de BPI France. Vous vous souvenez certainement que le gouvernement avait promis une loi d'urgence avant l'été pour répondre à la crise agricole. Eh bien, c'est à partir d'aujourd'hui qu'elle sera examinée à l'Assemblée nationale, où les débats s'annoncent d'ores et déjà électriques. Le RN demande la réintroduction de l'insecticide tueur d'abeilles, comme il a été qualifié, celui qui avait déjà mis le feu aux poudres l'année dernière. La gauche, elle s'oppose à l'installation de poulaillers géants, comme on les appelle, que le texte prévoit d'ailleurs de simplifier pour officiellement faciliter la vie des agriculteurs, nous explique Philippine Boulet.
Camille se lance en 2023 dans le projet de sa vie, construire une exploitation de 30 000 poules pondeuses dans la Vienne. 3 ans plus tard, seul un hangar est sorti de terre.
Ça a été laborieux, ça se concrétise encore.
Le parcours du combattant, selon lui, il a passé 2 ans à faire uniquement de l'administratif.
On a 3 ou 4 fois les mêmes informations, qu'on en était même à douter de la faisabilité du projet dû au retard.
À ces contraintes s'ajoute la recherche de financement. Alors pour faciliter l'installation des éleveurs, le projet de loi prévoit de revoir à la hausse le seuil à partir duquel certaines normes environnementales s'appliquent, de 40 000 à 60 000 poules. Une très mauvaise idée selon Stéphane Boissavi de l'association Wellfarm, opposée à ces structures. Pour lui, elles sont un danger pour l'environnement.
Il y a régulièrement des incidents qui peuvent entraîner de la pollution, de l'air, des sols, des rivières. Bon, les effluents animaux, etc. entraînent une pollution. Une cuve à lisier, par exemple, qui a une fuite et puis ça se déverse dans les rivières.
Selon les défenseurs du projet de loi, la création de poulaillers géants permet de répondre à la demande croissante en poulet et en œufs.
À 8h06 sur RMC, sachez que l'ambiance n'est plus vraiment à la fête en cette deuxième semaine du Festival de Cannes, où se réunit le monde du cinéma comme chaque année. Mais tout a changé depuis ce week-end, quand le patron de Canal+, un des argentiers du cinéma français, a annoncé le boycott de tous les signataires d'une tribune anti-Bolloré. On est 2 jours après et la polémique n'est toujours pas retombée, Romain Hougain.
Mais non, et c'est même tout le contraire. D'abord, l'annonce du patron de Canal+, Maxime Saada, a fait exploser le nombre de signataires de cette tribune, désormais plus de 1200 professionnels du cinéma. Robin Campillo fait partie des nouveaux noms, c'est le réalisateur du film multi-récompensé 120 battements par minute. Et puis, surtout parce que ce sujet est désormais quasiment omniprésent sur la croisette, pas une conférence de presse, pas une interview sans que la question ne soit posée. Et il y a ceux qui dénoncent cette annonce du groupe Canal+, comme Adèle Exarchopoulos. Tu ne peux pas avoir peur de perdre ton travail juste parce que tu exprimes une inquiétude collective, lance l'actrice. Et ceux qui peinent à réellement voir une inflexion idéologique dans les choix de Canal+. En tout cas, la polémique est telle qu'à 1 an de la présidentielle, même les politiques s'en mêlent. Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon dénoncent la mainmise de Vincent Bolloré sur le secteur, quand David Lisnard, le maire de Cannes, lui, accuse les signataires de mordre la main de celui qui les nourrit.
Si vous vous réveillez ce matin, sachez que vous avez raté un très gros match de basket cette nuit. C'était le début de la finale de Conférence Ouest en NBA. Alors on va être tout à fait honnête, c'est rare qu'on en parle, des finales de conférence, mais là, ça vaut le coup. Virginie Fulpin, au sport le matin pour RMC, c'est San Antonio qui a gagné ce premier match donc de finale contre Oklahoma, 122-115 précisément, mais surtout, Victor Wembanyama, il a été époustouflant.
Oui, il va falloir chercher de nouveaux superlatifs pour qualifier ses performances. C'était un match fou entre les deux meilleures équipes de la saison, tendance irrespirable. Il a fallu 2 prolongations pour les départager. Et c'est Victor Wembanyama qui s'est chargé de donner la victoire à San Antonio. C'est lui qui est allé arracher la 2e prolongation d'un tir venu d'ailleurs. Et il a survolé la fin de match avec 9 points marqués en 5 minutes. Sur l'ensemble de la rencontre, le Français a inscrit 41 points. Il a réussi 24 rebonds. Vous ajoutez à ça 3 passes décisives et 3 contres. Et vous avez un match de géant. Il a plané au-dessus de tout le monde, y compris de celui qui a été élu MVP, meilleur joueur de la saison, Shai Gilgeous-Alexander. Wemby était peut-être vexé d'avoir fini que 3e de cette élection. En tout cas, à 22 ans, alors qu'il dispute ses premiers play-offs en NBA, la phase finale du championnat, il montre une maturité, une efficacité redoutable.
Et alors, l'autre star du jour, c'est le footballeur Neymar, retenu avec le Brésil pour la Coupe du Monde du mois prochain. Il y avait des milliers de personnes devant le musée où ça a été annoncé hier soir au Brésil, quand le nom de Neymar a été prononcé. Mais il y a son sélectionneur, Carlo Ancelotti, qui prévient déjà, l'ancien Parisien, il jouera, mais seulement s'il a le niveau.
C'était le journal de Quentin Vinet.